Je m'entretiens avec le coordonnateur Gaétan Cousineau, coordonnateur du mouvement Action chômage, évidemment qui demande à la nouvelle ministre de l'Emploi fédéral de finalement abolir complètement ce qui reste de la réforme Harper. Gaétan Cousineau, bonjour.
Oui.
Alors, vous revenez évidemment avec les promesses électorales des libéraux du premier mandat qui sont maintenant à un second mandat. Donc, ce que vous voulez, c'est que la ministre Carla Caltrow, donc qui gère maintenant le programme d'assurance-emploi, fasse respecter ces fameuses promesses du temps.
Oui, bien, faut être franc avec les promesses des libéraux. Là. C'est que quand ils ont été en campagne électorale en 2015, ils avaient fait beaucoup de promesses là, de s'occuper des chômeurs, d'améliorer le régime d'assurance-emploi. Ils ont fait à la pièce là, quelques petites modifications. Et là, ben le premier ministre a donné un ordre dans sa lettre de mandat à sa ministre, encore une fois, de s'occuper des chômeurs et de modifier la loi d'assurance chômage maintenant, jusqu'à quel point elle sera en mesure de le faire. Parce que ce que l'on entend, c'est que il y a beaucoup de volonté de plusieurs députés d'appuyer une modification à la loi, mais la résistance vient plutôt des hauts fonctionnaires de l'assurance-emploi. Parce que c'est sûr, là, quand le premier ministre sanctionne une nouvelle loi ou des modifications à la loi, ça l'occasionne pour les hauts fonctionnaires beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail pour changer plein de choses dans les documents, dans les systèmes. Donc, à ce moment-là, c'est eux autres qui résistent le plus.
Il y a quand même des modifications qui avaient été apportées au régime d'assurance-emploi lorsque les libéraux sont entrés.
Oui. Faudrait se dire les vraies choses, là. Beaucoup de ce qu'ils ont amélioré depuis dans leur premier mandat n'était pas dans la réforme Harper. Par exemple, éliminer le 910 heures pour que tout le monde puisse être admissible avec 420 heures. Bien sûr que c'est un très beau geste, mais c'était pas dans la réforme Harper, ça.
Mm-hmm.
Voyez-vous? Alors, il y a des choses comme ça qui n'étaient pas dans la réforme Harper et qu'ils ont fait des modifications qui coûtaient pas trop cher.
Alors, qu'est-ce qui est encore là, qui provient de la réforme Harper, qui n'a pas été modifié, qui doit l'être?
D'abord, la question des gains lorsque vous êtes sous prestation. Depuis la réforme Harper, on enlève 50 cents par dollar que vous gagnez quand vous êtes sous prestation. Autrefois, on pouvait gagner jusqu'à 40 % de notre taux de prestation. Alors, autrement dit, si vous aviez 300 $ de prestations d'assurance chômage, vous pouviez gagner 120 $ sans qu'on coupe votre assurance chômage. M. Harper a trouvé que c'était exagéré que les chômeurs puissent gagner 120 $. Alors, a décidé de couper 50 % de leurs gains lorsqu'ils sont sous prestation. Donc, autrement dit, le même exemple, 300 $ de prestations de chômage, vous en gagnez 120, il y en a 60 que le gouvernement garde et vous permet de conserver l'autre 60 $ qu'ils enlèvent sur votre prestation. Alors, on demande à ce que on puisse retourner, évidemment, à 40 % pour faciliter le retour au travail, même si c'est à temps partiel, de nombreux chômeurs pour pallier au manque de travailleurs là, dans beaucoup de domaines. Un autre élément, c'était l'article 27, où on forçait les gens à aller chercher des emplois jusqu'à 100 km et accepter 70 % du salaire qu'ils gagnaient précédemment. Il y a eu une modification. M. Trudeau est revenu à l'ancien article 27, où c'est que on peut refuser un emploi qui est non convenable, c'est-à-dire qui n'est pas similaire ou semblable à l'emploi que vous occupiez précédemment, soit au niveau salaire, soit au niveau conditions de travail ou distance. Ça, c'est un bon geste qui vient de la réforme Harper, mais reste que dans l'esprit des fonctionnaires, ils sont extrêmement sévères envers les chômeurs. Et vu qu'ils ont travaillé longtemps avec l'ancien article 27, ben, ils continuent à mettre beaucoup, beaucoup de pression pour que les gens élargissent leur champ de recherche d'emploi à plus que la région où c'est qu'ils demeurent. Et on sent qu'il y a beaucoup, beaucoup de pression très forte faite à certains chômeurs. Et donc ça, c'est une directive qui devrait venir des hauts fonctionnaires vers les enquêteurs pour qu'ils soient plus mollo au niveau des recherches d'emploi. L'autre élément important, c'est que on nous avait promis retourner à la forme de contestation tripartite, c'est-à-dire le conseil arbitral avec trois personnes, en personne. Là, on nous dit, on nous avait dit avant les élections, pour se faire une belle jambe, le gouvernement Trudeau a dit, bien, on va retourner éventuellement aux contestations tripartites. Mais, depuis ce temps-là, silence radio. On n'entend pas rien parler. On a eu le commissaire avec nous l'autre jour dans une réunion de l'association provinciale qui nous a dit que lui non plus n'entend pas rien parler. Il ne sait pas quelle forme que ça sera. Est-ce que ça sera trois fonctionnaires? Est-ce que ça sera des gens de notre région qui jugeront les dossiers, qui connaissent la région, qui connaissent les réalités du travail, qui connaissent aussi les bons et les mauvais employeurs? On sait absolument rien, donc on ne sait pas si ça va se réaliser.
Il faut dire qu'auparavant, que ce que vous dites, là, c'est que un prestataire qui voulait contester une décision pouvait se présenter devant le conseil arbitral. Et ce conseil était composé de gens de la région. Chaque région, je pense, avait à peu près son conseil. Est-ce qu'on peut le dire ainsi?
Oui, bien, j'en avais un pour la Gaspésie. Et c'était soit j'allais plaider à Gaspé ou à New Richmond si mon client était de la baie des Chaleurs. Mm-hmm. Mais c'était exactement ça. Et ça prenait 30 jours passer devant le conseil arbitral. Actuellement, passer la même étape avec le nouveau système, c'est minimum 60 jours. Donc, tout de suite, là, on a un délai énorme. Et l'autre élément qui devait aussi améliorer, où on a fait beaucoup de représentations, c'était le tribunal de la sécurité sociale. Alors, au tribunal de la sécurité sociale, il y avait des délais là, jusqu'à 250, 260 jours avant de pouvoir passer là. Et tout se fait par téléphone maintenant. 90% de toutes les représentations de contestation se font par téléphone seulement. Et c'est toujours des fonctionnaires qui agissent à l'autre bout de la ligne. Il n'y a pas personne du milieu. Il n'y a pas personne qui représente officiellement le prestataire comme autrefois. L'assesseur syndical s'occupait, défendait les intérêts du prestataire.
Prestataire, oui.
Et le représentant des patronales représentait les idées du patron. Et il y avait le président du conseil qui était celui qui faisait l'unanimité là ou la discorde entre les deux. Donc, c'était beaucoup plus facile. Puis on était en personne devant eux. Donc, on pouvait vraiment là connaître la réaction. Tandis que là, maintenant, c'est au téléphone, avec des fonctionnaires en première instance, avec des fonctionnaires en revision, et avec au tribunal de la sécurité sociale, ben c'est pas un fonctionnaire, mais ce sont des gens qui sont payés par l'assurance emploi pour juger des dossiers et ils sont seuls au téléphone avec nous autres.
Autre point, mais juste peut-être revenir sur un des éléments dont vous avez parlé, M. Cousineau, la question de couper les gains. Justement des personnes qui reçoivent des prestations d'assurance emploi lorsqu'ils se trouvent un travail pour aller chercher un peu plus d'argent. Est-ce que, d'après vous, ça vient nuire justement à la pénurie d'emplois qu'on vit parce qu'il y a peut-être des gens qui ne vont pas essayer d'aller se trouver des emplois, là? Donc, ça améliore pas la situation?
Richard, c'est facile à comprendre que quelqu'un qui gagne 15$ s'en va travailler une journée pour son ancien employeur. Il se fait couper 50%, il revient à 7$50, c'est moins que le salaire minimum. Est-ce que ça lui tente d'aller travailler, payer de la gasoline, payer une gardienne, payer un lunch le midi probablement, et s'habiller pour aller travailler? Alors, c'est sûr et certain que ça ne règle pas le problème de la pénurie de main-d'œuvre, là, évidemment.
Autre point, la question des prestations d'assurance, prestations maladie, d'assurance maladie. Donc, il y a des demandes sur la table pour que ce soit augmenté.
Oui, actuellement, le gouvernement offre quelque chose comme 26 semaines au lieu de 15 actuellement. Mais connaissez-vous quelqu'un qui sort du cancer après 15 semaines ou après 26 semaines? C'est un an de repos, c'est un an de récupération après le cancer. La même chose pour les maladies coronariennes. Donc, on se demande pourquoi est-ce que le gouvernement ne donne pas 52 semaines de prestations du chômage à ceux qui passent par des épreuves comme ceux-là. quand les dames qui reçoivent les prestations maternité pendant 52 semaines à la maison avec leurs enfants, qui sont pas malades, qui ont beaucoup de plaisir et d'agrément à être avec l'enfant. Et nous, quand on est malade, bien, on n'a que 15 semaines. Alors, j'ai des gens, moi, qui se retrouvent à toutes les semaines, là, vis-à-vis absolument aucun revenu après leurs 15 semaines de prestations maladie. Donc, on pense que 52 semaines, ça serait justement le bon moment, là, pour que la personne puisse récupérer et pouvoir retourner sur le marché du travail.
Gaëtan Cousineau, oui, on parle souvent à cette époque-ci là, du trou noir qui arrivera à un moment donné. J'aimerais qu'on y revienne et qu'on... c'est quoi à peu près en moyenne le nombre de semaines un prestataire d'assurance emploi va obtenir en Gaspésie?
Et... Actuellement, si quelqu'un s'est qualifié à l'assurance emploi avec le minimum 420 heures, pour un exemple, là, ça lui donne, je crois, dépendamment de chaque mois, là, le taux de chômage peut varier, mais avec 13% de taux de chômage, ça lui donne 26 semaines de prestations. Alors, 26 semaines plus 14 semaines de travail, par exemple, ça fait 40 semaines. 5 semaines de prestations spéciales du projet spécial là, pour les travailleurs saisonniers. On est rendu à 45 semaines. Donc, il manque encore beaucoup de semaines pour arriver au moment où vous allez recommencer à travailler, donc vous êtes sans revenu, à la sortie de l'hiver, à la sortie des gros comptes électriques. Alors, il y a plein de gens qui s'endettent encore plus au printemps que durant le temps qu'ils travaillent.
Donc, il y a 7 semaines qui est pas là, là, qui que dans le calcul que vous faites, là, ouais. Avec ceux qui atteignent le 420 heures minimum, oui. Donc, il reste 7 semaines où on ne reçoit pas de salaire ou de revenus, là.
Exactement. C'est pour ça que on essaie de convaincre les employeurs là, de faire travailler 16 ou 18 semaines quand c'est possible. On voit des années où le tourisme se termine là, vers le 15 septembre et là, les gens commencent à être mis à pied. Donc, il n'y a pas beaucoup de semaines. Là. 24 juin, 13 septembre, là. Ça fait à peine 14 semaines. Donc, c'est très peu facile là, de faire 16 et 18 semaines pour arriver à faire le tour de l'horloge, comme on dit.
Est-ce que c'est le secteur où ça se produit le plus, de pas arriver à faire plus de 14-15 semaines, donc le secteur touristique?
Parce que... Il y a beaucoup de régions qui ont du tourisme d'été puis du tourisme d'hiver, par exemple. Saint-Laurentine, ils ont l'hiver, les pistes de ski. Là. Les gens d'été travaillent beaucoup dans les pistes de ski d'hiver. Donc, les autres travaillent là, 40 semaines, 35 semaines, là, très souvent. Là, sur la rive nord, sur la basse côte nord, ben il y a le coin de Charlevoix où c'est très actif au niveau de l'autoneige et des sports d'hiver.
Donc, chez nous, est-ce qu'on pourrait dire que c'est le secteur touristique où il y a du travail à faire, parce que les autres secteurs vont mieux, la pêche, ces secteurs-là?
La pêche va mieux, oui.
Oui, c'est ça, donc...
Oui, évidemment, c'est le côté touristique. Si on arrivait à développer un tourisme d'hiver pour la peine, là, si ça valait la peine, il y a eu plusieurs tentatives là, à différents endroits, mais c'est difficile à cause qu'on dépend beaucoup, beaucoup de la température. Mm-hmm. L'été, c'est même si la température est maussade, les gens ont cédulé leurs vacances, puis ils viennent quand même... Puis ils s'accommodent avec des journées pluvieuses, des journées venteuses, là, ils s'accommodent. Mmh. Puis il y a beaucoup plus de récréatifs l'été que l'hiver qu'on a en Gaspésie. Alors l'hiver, s'il y a une mauvaise température, les gens quittent pas Québec, ils quittent pas Montréal là, pour une semaine de grosses tempêtes, là, parce qu'ils vont perdre leur temps, là, ils vont rester dans les hôtels.
Donc, quand on regarde ça, Gaëtan Cousineau, les prestataires qui vont arriver à se qualifier avec le minimum d'heures qui est exigé, c'est surtout dans le secteur touristique qu'on voit ça. Quand on parle de secteur, là, justement, et de travail saisonnier, ce serait ça?
Majoritairement, oui. Alors, je pense que nos gouvernements ont beaucoup de travail à faire sur le côté de développement économique là, pour le tourisme d'hiver. Il y a beaucoup d'argent à investir. Les marchands de nos régions touristiques d'été ont souvent n'ont souvent pas le liquide ou les possibilités financières de pouvoir investir des montants immenses là, pour développer le tourisme d'hiver. Donc, ça prend absolument l'aide des développeurs économiques là, comme les gouvernements et ceux qui veulent bien sortir les sous plutôt que les mettre dans les paradis fiscaux.
Alors, Gaëtan Cousineau, donc le directeur, c'est ça, hein, directeur?
Coordonnateur.
Coordonnateur, excuse, oui. Gaétan Cousineau, donc coordonnateur du mouvement Action Chômage pour notre région. Merci pour cet entretien.
Ça m'a fait plaisir, Richard.